quelles inégalités sont compatibles avec les différentes conceptions de la justice sociale? Comment analyser les inégalités? Mesurer les inégalités pour comprendre leur évolution. On considère généralement qu'il existe deux grandes formes d'inégalités, économiques et sociales. Les inégalités économiques correspondent principalement aux inégalités de revenus et aux inégalités de patrimoine. Les inégalités économiques sont mesurées par différents outils statistiques, dits statiques. Rapport interquantile, courbe de Lorentz et coefficient de Gini, ou encore par le top 1%. Mais il existe aussi un outil de mesure dynamique que l'on applique aux inégalités sociales, la corrélation de revenus parents-enfants. L'évolution des inégalités économiques depuis le début du XXe siècle. Dans la première partie du XXe siècle, dans les pays développés, les inégalités économiques sont très fortes, en particulier les inégalités de patrimoine. Comme les hauts revenus proviennent principalement du capital, Thomas Piketty parle d'une société de rentiers dans le capital au XXIe siècle, publié en 2013. La crise de 1929, puis la Seconde Guerre mondiale, réduisent considérablement les inégalités économiques en détruisant les patrimoines accumulés. Puis, avec les Trente Glorieuses, 1945-1973, ces inégalités baissent de façon significative. On peut représenter ces deux évolutions par la courbe de Kuznets. Depuis le début des années 1980, les inégalités économiques ont repris dans les pays développés. Selon Piketty, une société de supercadres s'est mise en place. Les hauts revenus proviennent d'abord du travail. Les inégalités internes des pays en développement augmentent également. En revanche, les inégalités internationales ont tendance à se réduire. Par exemple, entre les pays développés et les pays en développement. La courbe de l'éléphant de l'économiste Branko Milanovic permet de visualiser ces constats puisqu'elle montre l'évolution des inégalités dans le monde depuis 1980. Des inégalités multiformes et cumulatives. Les inégalités présentent un caractère multiforme. Elles peuvent être économiques ou sociales. Les inégalités sociales sont elles-mêmes diverses et en partie indépendantes des inégalités économiques. Ainsi, les inégalités culturelles, en fonction des professions et catégories socio-professionnelles, ne s'expliquent pas seulement par la différence de ressources économiques, mais par la socialisation différenciée des individus selon leur milieu social. Les facteurs d'inégalité sont multiples, sexe, âge, génération, origine, lieu de résidence, mais peuvent se superposer. Le concept d'intersectionnalité désigne ainsi la situation des groupes qui subissent différentes formes d'inégalité ou de discrimination dans une société. En outre, les inégalités sont généralement cumulatives. Par exemple, les inégalités culturelles se traduisent par des inégalités scolaires qui se transforment en inégalités d'accès sur le marché du travail. Chômage, emploi stable, niveau de salaire. Comment favoriser la justice sociale? Des formes d'égalité aux différentes conceptions de la justice sociale. Dans les sociétés démocratiques, il est possible de recenser trois formes d'égalité. L'égalité des droits, qui correspond à l'égalité des citoyens devant la loi. Par exemple, la justice n'est plus arbitraire, comme elle pouvait l'être sous l'Ancien Régime, mais dépend d'un droit connu de tous et appliqué de la même façon sur chacun. L'égalité des chances, qui doit permettre la mobilité sociale et offrir la possibilité d'augmenter son bien-être, comme le développe Alexis de Tocqueville dans « De la démocratie en Amérique », publié en deux livres en 1835 et 1840. L'égalité des situations, qui suppose la suppression de toutes les inégalités subsistantes. Ces différentes visions de l'égalité se traduisent par des courants théoriques qui ne retiennent pas les mêmes critères pour approcher la justice sociale. Ainsi, l'utilitarisme souhaite trouver le plus grand bonheur du plus grand nombre à partir de la maximisation de l'utilité, satisfaction moins peine, de chacun. Le libertarisme fait confiance au marché pour assurer une distribution juste des ressources disponibles et prône un état minimal. En privilégiant l'égalité des droits, le libertarisme considère que, comme tous ont les mêmes droits, celui qui ne réussit pas est responsable de son sort. Il ne fait pas les efforts nécessaires pour mériter mieux. De son côté, l'égalitarisme libéral privilégie l'égalité des chances. Dès lors, l'égalité des droits est nécessaire mais pas suffisante. Il s'agit de donner réellement à chacun les mêmes chances de réussir. Enfin, pour l'égalitarisme strict, égalité des droits et égalité des chances ne suffisent pas. Il faut chercher à obtenir l'égalité des situations pour que la société soit juste. Cela suppose de corriger toutes les inégalités qui subsistent. Il n'est plus question de l'égalité des moyens, mais bien de l'égalité des résultats, ou de l'égalité réelle. Le rôle de la fiscalité et de la protection sociale. Au terme d'un long processus, l'État a mis en place un système de protection sociale au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Dès 1945, la création de la sécurité sociale en est le symbole. Cela a permis une mutualisation des risques que l'on retrouve dans la logique d'assurance. Les citoyens qui travaillent et leurs familles sont alors protégés contre la survenance des risques sociaux. Après avoir longtemps favorisé l'assurance, le système de protection sociale recourt davantage à l'assistance pour réduire les inégalités entre individus et pour lutter contre la précarité, avec des dispositifs comme le revenu de solidarité active, RSA, socle ou la couverture maladie universelle, CMU. Pour les pouvoirs publics, il s'agit de favoriser la cohésion sociale. Dans cette perspective, l'État dispose de la fiscalité, de tous les prélèvements obligatoires. L'impôt sur le revenu est celui qui corrige le mieux les inégalités économiques. Progressif, il permet de resserrer les revenus et de diminuer la concentration des patrimoines. Les services collectifs et la lutte contre les discriminations. Une autre façon de réduire les inégalités consiste, pour l'État, à offrir des services collectifs à la population. Il s'agit d'un outil particulièrement efficace. En matière de santé, d'éducation, de logement ou encore de transport, les services collectifs fournissent des prestations gratuites ou quasi gratuites, permettant ainsi une redistribution de la richesse nationale. Sans compter qu'ils agissent directement à la racine de la formation des inégalités. inégalité des chances ou inégalité sociale de santé. Ainsi, comme avec la protection sociale, les pouvoirs publics se servent des services collectifs pour empêcher l'accroissement d'une ségrégation sociale déjà apparente. Par ailleurs, les pouvoirs publics cherchent à lutter contre les discriminations. Ces formes de rupture avec l'égalité des droits frappent des populations diverses, femmes, handicapées, minorités ethniques, dans de nombreux domaines, marché du travail, accès au logement ou aux loisirs. L'État cherche à sensibiliser la population aux discriminations. Lorsque cela ne suffit pas, il est possible de faire appel à la justice, donc à la loi, ou aux défenseurs des droits. En quoi l'action des pouvoirs publics pour la justice sociale fait-elle débat ? Contraintes de financement et efficacité de l'action publique. L'action des pouvoirs publics visant à favoriser la justice sociale s'effectue sous la contrainte des déficits publics, contrôlés suivant les engagements européens. L'État doit constamment veiller à ce que ses dépenses ne soient pas plus élevées que ses recettes, ce qui peut réduire son efficacité. De fait, l'efficacité de l'action des pouvoirs publics en matière de lutte contre les inégalités fait débat dans la mesure où les inégalités économiques et sociales restent très fortes. De plus, l'intervention sociale de l'État est critiquée, compte tenu du nombre élevé de pauvres et de SDF qu'elle ne parvient pas à endiguer. Légitimité de l'action publique et risque d'effets pervers. Les idées libérales imposent également une discussion sur la légitimité de l'action des pouvoirs publics en matière de lutte contre les inégalités. Faut-il toujours chercher à réduire les inégalités ? Ne sont-elles pas simplement le reflet du mérite de chacun ? C'est la légitimité même de l'intervention sociale de l'État qui est mise en question. Pour les libéraux, les inégalités ont une utilité sociale. Il faudrait donc se limiter à un état minimal. Les libéraux considèrent que l'intervention sociale de l'État génère des effets pervers, comme la désincitation au travail. Il faudrait donc plutôt laisser faire le marché. Mais, au-delà des libéraux, les débats autour du consentement à l'impôt démontrent que l'action de l'État pour favoriser la justice sociale n'est pas bien comprise. La fiscalité n'est pas toujours perçue comme juste et les réalisations de l'État apparaissent moins visibles.